Juridiquement, on pourrait dire que le PLU patrimonial n'existe pas. Aucun code ne le mentionne formellement, ni le code de l'urbanisme, ni le code du patrimoine. Il semble même très difficile de dater l'apparition de l'expression de PLU patrimonial. Et pourtant, il existe. De très nombreuses collectivités revendiquent l'adoption de PLU patrimoniaux, comme l'ont fait plusieurs grandes villes depuis près d'une vingtaine d'années. En effet, l'histoire du PLU patrimonial n'est pas si récente qu'on pourrait le croire. Certains se souviennent qu'on parlait déjà de POS fin ou de POS qualitatif dans les années 1980. Mais c'est véritablement le développement de l'article L123.1.7 du Code de l'urbanisme qui va fonder cette première expansion des PLU musclant leur ambition patrimoniale. Les années 2000 vont donc voir un certain nombre de villes, plutôt de grande taille, mobiliser la ressource juridique offerte par cet article. Depuis son origine en 1967 dans la loi d'orientation foncière, le contenu et le régime juridique de cet article se sont élargis, en particulier en 1993 avec les lois paysages et SRU, et en même temps que sa numérotation évoluait. L123.1.7, puis L123.1.5.7, etc., pour être aujourd'hui le L151-19. Sa traçabilité n'est donc pas toujours évidente, mais elle est essentielle pour savoir si on peut parler de PLU patrimonial. Le degré de mobilisation de cet article dans le PLU constitue l'indicateur principal, mais non exclusif, de la force patrimoniale du document d'urbanisme. Le nombre d'éléments repérés et protégés par cet article révèle le volontarisme de la collectivité en matière de protection des patrimoines dans sa politique urbaine. Ainsi, des villes comme Paris ou Bordeaux, qui a créé un service dédié à cette mission, la MIRPO, ont listé des milliers d'immeubles, y compris de petite taille, pour les soumettre au régime juridique issu de cet article. Elles ont certainement ouvert la voie pour des territoires moins denses et à l'ingénierie territoriale plus modeste. En raison de cette diffusion progressive du PLU patrimonial, le ministère de la Culture a envisagé en 2014, lors de la rédaction du projet de loi LCAP, de l'inscrire comme outil possible de gestion des cités historiques, rebaptisées sites patrimoniaux remarquables. Faute d'un statut officiel de l'outil, justifiant les protestations des défenseurs du patrimoine, le ministère a finalement fait machine arrière, en sortant le PLU patrimonial de la loi adoptée en juillet 2016. Mais cette naissance législative avortée n'a nullement enterré l'outil sur le terrain. Une vraie dynamique est en marche dans les territoires. Et sans pouvoir en assurer une comptabilité exacte, on peut penser qu'aujourd'hui, des centaines et même probablement quelques milliers de communes ont injecté des dispositions patrimoniales dans leur PLU. Les raisons sont nombreuses. Lutte contre l'accélération du temps, besoin de protéger un patrimoine touristique, mais aussi celui d'un cadre de vie attractif pour les habitants actuels et futurs, ou affirmation d'une identité territoriale. Le PLU ou PLUi patrimonial est donc devenu en une vingtaine d'années, une réalité territoriale, au contenu protéiforme, car ajusté à des enjeux patrimoniaux locaux auxquels les outils dédiés ne permettent pas forcément de répondre. Pour ces mêmes raisons, les collectivités patrimonialisent leur PLU selon des intensités très variables, tant dans le nombre et la variété des éléments patrimoniaux retenus que dans leur niveau de protection. Il est donc aujourd'hui difficile de dire d'un PLU ou d'un PLUi qu'il est patrimonial. Il ne s'agit pas d'une approche binaire, PLU patrimonial ou non, mais plutôt de situer le document sur un gradient de patrimonialisation. Puisqu'il n'existe pas de statut officiel du PLU patrimonial, et il est probable que le Code de l'urbanisme ne change pas en ce sens, il faut plutôt considérer qu'il s'agit de se conformer à un certain nombre de bonnes pratiques ou de repères méthodologiques, permettant de faire et de justifier des choix dans la palette des options possibles.